Il est 6h40, vous êtes bien sur France Culture et nous retrouvons Jacques Meunier pour le Journal des Idées. Bonjour Jacques.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Jacques, les vendanges touchent à leur fin, elles s'annoncent exceptionnelles en raison de l'ensoleillement record. Et c'est l'occasion pour vous de parler de la vigne et du vin.
Mais oui, alors en Champagne, Clara, on s'attend à un millésime exceptionnel, commencé dès le 20 août et presque achevé. Dans l'ensemble de l'appellation les vendanges précoces, cette année ont révélé à la cueillette des grappes dans un état sanitaire parfait, avec des richesses en sucre et en arômes bien au-dessus de la moyenne. Même chose en Bourgogne, dans le Beaujolais ou en Alsace, mais là, pour les blancs, dont elle constitue la charpente, l'acidité risque de faire défaut à la vinification désormais de corriger cette faiblesse. Dans le Bordelais, où la grêle a touché près de 10 000 hectares de vignes, les fortes pluies en mai et en juin ont favorisé le développement du mildiou et cette année, le champignon s'est répandu jusque dans les vignobles du Languedoc. Mais dans l'ensemble, l'année 2018, c'est du soleil en bouteille. Et elle devrait se traduire par un nombre respectable de flacons répandus sur toutes les tables. On peut s'arrêter sur ce détail. La bouteille de verre, le bouchon de liège et le tire-bouchon sont une invention récente. Comme le rappellent Pierre Guigui et Sophie Brissot dans une autre histoire du vin, longtemps le vin fut tiré des tonneaux et versé directement dans les carafes ou les verres. C'est le souffleur de verre Pierre Mitchell qui monte la première fabrique de bouteilles en 1723. À Bordeaux, de la fin des années 1600 au début des années 1800, les bouteilles évoluent de la forme en oignon à la forme en maillet, puis à la forme cylindrique actuelle, qui permet de les entreposer à plat et de les ranger dans des caisses, facilitant grandement le transport. Mais il faudra attendre deux siècles pour que se généralise la mise en bouteille, notamment au château ou sur le lieu de production, une pratique favorable à son vieillissement. Les polyphénols travaillent différemment en bouteilles et l'on a des vins qui circulent car en tonneau tout doit vieillir au même endroit et le vin tiré au début du tonneau était différent au bout de plusieurs semaines quand on effectuait un second tirage, d'où l'expression pérenne, quand le vin est tiré, il faut le boire, surtout s'il est d'une qualité moyenne comme c'était le cas dans les tavernes, d'où l'expression s'est répandue. Là, le risque était carrément que le vin ne se gâte et du coup l'expression s'est convertie en une invitation à accélérer le rythme des libations. Comme le rappelle Yves-Marie Bercé dans Les Secrets du vin, le serveur passait directement du robinet de la barrique au broc de terre ou d'étain et au verre. À la table commune, la coutume était à l'arrivée de saluer la compagnie en s'autorisant à s'asseoir, de payer son écho, puis de saisir l'occasion de prendre une tournée à sa charge, porter des santé et avaler sans façon les suite de rasade. À ce compte, les barriques s'envolaient sans charroi et le tavernier pouvait même ajouter sa pinte à l'envi. L'historien des sociétés rurales insiste lui aussi sur le rôle de la bouteille dans la culture du vin, notamment dans le Médoc, dès le XVIIIe siècle. Au lieu de vendre en fût aux marchands, les propriétaires se lançaient dans la mise en bouteille sur les lieux et après 4 ans de vieillissement, l'embouteillage local et l'attente de vieillissement étaient deux signes d'un parti pris de qualité et d'entrée dans un marché de luxe. Reste l'aspect sanitaire sur une chaîne du service public et à cette heure matutinale, car il y a loin de la dégustation gourmande à la beuverie et l'ivrognerie, laquelle était la cause pour le pasteur Vincent Texier de paillardise, adultère, inceste, violence, meurtre et parricide, les ivrognes ayant moins de raisons que les bêtes brutes. Aujourd'hui, on consent à accorder davantage de raisons aux animaux qu'aux ivrognes, même s'il faut se souvenir du beau fragment d'Héraclite qui met en garde contre les préjugés à l'encontre de l'homme ivre qui titube parce qu'il se croit conduit par un enfant qui ne sait pas où il va. Et il est convenu de condamner, je cite encore le bon pasteur, les compagnons qui, aussitôt qu'ils sont levés, vont chercher où se vend le meilleur vin qui est nommé par les uns l'opiate du déjeuner pour chasser le mauvais air et par les autres la purée de septembre. Du vin jeune, donc, du jus de treille à consommer sans modération dès l'appel du réveil pour se fortifier l'aorte et le cœur, comme on a cru longtemps dans les milieux médicaux. Le vin est la caverne de l'âme, disait Erasme, de ma cave intime mais ouverte à tous les vents de l'esprit. Voici une bouteille de Rasto, vieille vigne de Grenache, un vin rubicon à la puissance veloutée auquel l'excellente revue, Le Rouge et le Blanc, consacre sa dernière livraison. Comme tous ses voisins situés dans la région de Vaison-la-Romaine, ce village des Côtes-du-Rhône était voué à la polyculture méditerranéenne traditionnelle, à base d'oliviers, d'arbres fruitiers, de légumes et de vignes. À la bonne heure, le terroir a choisi le vin. Dossier complet avec visite des domaines et dégustation dans les pages de la revue.